Bonjour, cette semaine, le Labomatique fait escale à Saint-Malo, à bord de l'Hermine Bretagne, navire d'archéologie sous-marine d'Adramar, association pour le développement de la recherche en archéologie maritime. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher au fond de nos côtes ? Anne Ouyoberi, archéologue sous-marine, nous répond. Mais ne grillons pas les étapes. Avant de zouker les artimuses, il y a des conditions à respecter.
Oui, tout à fait, parce que donc, en termes d'archéologie sous-marine, eh bien, toutes les découvertes, d'abord, sont propriété de l'État. Donc, on ne part pas comme ça sur un coup de tête pour dire, voilà, j'ai envie d'aller me balader sur telle épave ou fouiller telle épave. Donc, il y a une procédure donc, qui consiste à faire une demande auprès du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui est basé à Marseille. Le DRASM travaille en collaboration avec les préfets maritimes, donc des différentes tranches de côte, ce qui fait que d'abord eux reçoivent la demande, puis ils la transmettent au préfet, et ensuite il y a un retour par rapport à cette demande. Donc c'est seulement avec l'accord de ces deux entités que l'on va pouvoir intervenir sur le terrain. Voilà. Et puis, évidemment, il y a l'aspect budgétaire. Pour pouvoir aller sur le terrain, il faut avoir le budget nécessaire et les financements nécessaires.
Une fois que vous avez le budget, une fois que vous avez l'autorisation, que se passe-t-il ?
Alors, une fois que tout ça est obtenu, eh bien, on met en place une fouille, c'est-à-dire qu'on constitue d'abord une équipe. Est-ce qu'on va faire de la prospection ou bien est-ce qu'on va faire de la fouille, c'est-à-dire de la plongée, ou bien les deux ? C'est possible aussi. Donc, en termes de fouille, donc avec plongée, eh bien, on va avoir besoin d'un chef de mission qui va gérer l'ensemble de l'équipe, un COH, un chef d'opération hyperbare, qui lui va avoir la gestion de la procédure de plongée, c'est-à-dire à quelle heure on se met à l'eau, comment on se met à l'eau et qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre bouteille au départ, à la sortie, et ainsi de suite. Et puis, une équipe donc de spécialistes, alors qui peuvent être des archéologues sous-marins, qui peuvent être aussi des dendrochronologues, qui peuvent être des céramologues. Donc, en fonction de l'épave ou des vestiges sur lesquels on va travailler, on va diversifier l'équipe qui va intervenir.
Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un dendrochronologue ?
Alors, un dendrochronologue, en fait, c'est un spécialiste qui va arriver à dater des bois. Donc, en faisant un calcul très savant sur les courbes de croissance de ces bois, avec des courbes de référence connues de manière européenne. Et donc, en comparaison de ces courbes de croissance, il va proposer une datation pour le bois qu'il vient d'observer.
Et quels outils scientifiques utilisez-vous à bord du bateau ou sous l'eau pour mener vos fouilles ou vos prospections ?
Alors, pour les prospections, on va avoir en gros trois outils privilégiés. Le sonar à balayage latéral, le pénétrateur de sédiments et le magnétomètre. Donc, sonar à balayage latéral va donner une image acoustique. Donc en fait, c'est comme si on avait une image du fond de la mer, comme une image vidéo, mais qui n'est pas vidéo, qui est acoustique. Le pénétrateur de sédiments va, lui, donner des informations sur les couches qui sont, enfin, sur ce qui se passe de manière sous le sable, en fait, c'est-à-dire sous la surface du fond marin. Et puis le magnétomètre, lui, va donner des informations sur tout ce qui est masse métallique que l'on peut trouver à la surface du sable, mais également enfoui dans le sable. Donc ça, c'est pour quand on a besoin de retrouver précisément un lieu d'épave ou qu'on en cherche sans avoir de point précis. Donc pour arriver à travailler, à fouiller sur une épave, il faut avoir les coordonnées précises de l'épave. Donc soit elles sont transmises au préalable par une prospection géophysique, soit elles sont transmises par des clubs de plongée, des gens qui sont régulièrement sur le terrain, qui vont dire bah, « tiens, voilà, à tel endroit, on a trouvé telle chose ». qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez aller voir. Donc toujours avec l'aval de l'État, sinon c'est pas possible. Et après, eh bien, une fois qu'on a repéré, localisé le vestige, on va plonger. Donc après, pour la plongée, ce qu'on peut utiliser en termes d'engins ou d'outils scientifiques, on va avoir des outils de positionnement des objets. Donc on utilise par exemple le DSM, Direct System Métrique, qui nous donne le moyen de positionner les objets les uns par rapport aux autres de manière très précise, plus précis que le centimètre, quoi. On a de l'ordre de 0,5 mm. Et ça permet après de restituer l'ensemble des objets sur la totalité du site. Donc de savoir, voilà, dans cette zone-là, on a prioritairement des briques avec de la vaisselle. Dans cette zone-là, on va avoir prioritairement des engins, des ustensiles liés à la chirurgie. Et donc après, on peut arriver à comprendre, par exemple, pour une épave du 18e, comment les objets se répartissent. Et donc, est-ce qu'on est plutôt à l'avant ou au centre ou à la fin, à l'arrière du navire. Donc ça, ce sont des outils. Après, on va avoir aussi l'aspirateur sous-marin, mais là, qui est quelque chose de plus basique, enfin, qui est mécanique, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'on a une pompe qui est posée sur le pont du navire et qui alimente en énergie un aspirateur qui est donc sous l'eau. Donc cet aspirateur va aspirer l'eau, mais avec l'eau, tout ce qu'on va mettre devant la bouche de l'aspirateur, c'est-à-dire le sable, la vase, les algues, cet aspirateur va donc nous permettre de descendre dans les couches archéologiques et accéder vraiment à l'intérêt de la fouille.
Justement, quel type de vestiges trouvez-vous ?
Alors, quel type de vestiges ? Eh bien, en fait, en fonction des eaux douces ou des eaux salées, on va avoir des vestiges différents, parce que donc on intervient également en rivière, fleuve, lac, et ainsi de suite. Nous travaillons sur tout ce qui est vestiges à caractère donc humain, c'est-à-dire soit des aménagements portuaires pour ce qui est eau douce, ou bien des aménagements de pêcherie, des aménagements de ponts, des choses comme ça. Après, tout ce qui va être en milieu maritime, ça peut être aussi bien des sites d'habitat immergé, donc comme vous savez, le niveau de la mer a monté et donc certains sites se retrouvent maintenant sous l'eau. Donc ça peut être également le plus classique des épaves. Donc pour une raison X ou Y, un navire a naufragé et il s'est posé au fond de l'eau. Donc voilà, ça ce sont ce à quoi on pense le plus couramment. Mais il y a aussi également tout ce qui est objet isolé, c'est-à-dire que suite à un mauvais temps ou pour éviter un naufrage, un navire va se délester d'objets pesants, où les objets vont quitter le pont par eux-mêmes. Et donc ça va être des objets isolés qu'on va retrouver plus difficilement parce que la taille est plus réduite, mais sur lesquels on va également travailler.
Et pouvez-vous nous parler des derniers projets que vous avez eus, des dernières fouilles ?
Alors, les dernières fouilles effectuées il y a 15 jours, on était dans le golfe du Morbihan devant Loch Mariaker. Et en fait, on a d'une part prospecté en géophysique pour retrouver d'anciens aménagements, la potentialité d'anciens aménagements portuaires en face de la ville actuelle. Et on a également plongé sur des points de contact qu'on avait décelé l'année précédente, savoir s'il était face à une épave ou non. En fait, on recherchait une épave et donc on avait besoin de plonger pour vérifier si c'était bien de cela dont il s'agissait. Sinon, dans les derniers chantiers en termes d'épave, on a aussi travaillé sur l'épave de ZI24 qui est en amont du barrage de la Rance, donc sur la commune de La Richardet. Et là, on avait de fortes présomptions pour être face à un navire 18e, voire début 17e, avec une démention d'archives qui était bien relatée, enfin qui expliquait la totalité du naufrage, et ainsi de suite. Et en fait, suite à des analyses dendrochronologiques, on s'est rendu compte que ça n'était pas le bon candidat. Donc, on va essayer de proposer une nouvelle campagne de fouilles pour 2014 sur cette épave.
Quelle a été pour vous votre plus belle découverte ?
Alors, la plus belle découverte, c'est celle où, en fait, on s'approche le plus de l'humain, c'est-à-dire où on a... l'émotion de pouvoir approcher des objets qui sont vraiment le quotidien des marins. Donc à savoir, pour moi, c'était un petit objet sculpté, en fait, qui est une râpe à tabac et qui est un petit objet en bois qui a été sculpté a priori par le marin qui la possédait. Et on peut imaginer qu'il fait ça sur un transit ou entre deux manœuvres. Voilà, donc ça, c'est... c'est arriver à faire revivre ces marins, à faire revivre leur histoire. Et ça, c'est le côté le plus passionnant du métier, où on se sent proche des hommes qui ont vécu il y a plusieurs siècles au préalable.
Et du coup, que deviennent tous ces vestiges que vous remontez ? Faites-vous vous-même la restauration ?
Alors, d'une part, tous les objets ne sont pas remontés. Souvent, ils sont remontés, étudiés, et ils peuvent être remis sur le site avec... une procédure particulière pour qu'ils ne soient pas mis en danger. Ensuite, pour ceux qui sont remontés, évidemment, ce sont tous les objets archéologiques provenant de fouilles archéologiques sous-marines sont en généralement extrêmement bien conservés par rapport à l'archéologie terrestre, notamment tous les objets organiques, le bois, les cordages, la fibre et ainsi de suite. Mais ils nécessitent extrêmement rapidement des soins de restauration-conservation. Donc nous, archéologues, on est habilités à donner les premiers soins, mais pour des soins de plus grande importance, effectivement, on va se tourner vers des laboratoires de restauration-conservation comme Arcantic à Nantes ou Arc Nucléaire à Grenoble, qui vont être plus ou moins spécialisés les uns et les autres dans les objets métalliques ou dans les objets organiques avec des traitements appropriés. Ensuite, ces objets, en fonction du besoin de traitement, vont rester plus ou moins longtemps en laboratoire et nous, on les récupère restaurés pour des expos ponctuelles, parce qu'en fait, ils sont évidemment possession de l'État français. Donc, s'ils ne sont pas réattribués par l'État à des collections de musées, eh bien, ils vont après aller dans des lieux de conservation pour pouvoir être accessibles à des chercheurs et des étudiants qui vont travailler sur des collections.
Si on prend l'exemple de la région Bretagne, quel type de vestiges peut-on trouver ? De quelle époque datent le plus souvent les vestiges ?
Alors, disons qu'on est assez gâté en Bretagne, à savoir qu'on a une chronologie très vaste et très étendue. Si on est devant Saint-Malo, eh bien, on va avoir toutes les épaves 16e, 17e, 18e, mais aussi après 19e et 20e avec les deux conflits mondiaux et aussi les épaves industrielles, en fait, du commerce industriel 19-20e. Après, pour des périodes plus anciennes, on va avoir, comme on en parlait tout à l'heure, dans le golfe du Morbihan, notamment tout ce qui est recherche mégalithique, puisqu'il y a un ensemble de mégalithes qui sont immergés. Et puis, on va avoir également, de manière encore plus ancienne, tout ce qui est l'étude des paléo-vallées, à savoir, là, il faut qu'on remonte un peu plus que vers la Bretagne, mais on va aller vers la Manche, la Normandie, on va dire, et là, on a aussi des vestiges assez intéressants sur les côtes françaises et encore peu étudiés.
Sur quelle zone géographique travaillez-vous et quand vous partez en mission, combien de temps durent ces missions ? Et à chaque fois, à combien de personnes vous partez ?
Alors en fait, la zone géographique, c'est très vaste, prioritairement Atlantique, Manche, Mer du Nord. Mais on peut aussi travailler à l'étranger avec des équipes étrangères, Angleterre, Belgique par exemple, on a travaillé avec eux dans le cadre d'un projet européen. Mais également, la Dramar a participé à une mission au Sultanat du Brunei, donc ou Vanikoro. Donc on peut être appelé par d'autres équipes pour venir en renfort, donc pour tout ce qui est à l'étranger. Sinon, donc, nous, on intervient principalement sur les côtes françaises et donc Manche-Mer du Nord-Atlantique. Et là, le temps de mission est très variable en fonction du travail à réaliser. Ça peut être une semaine, comme ça peut être un mois ou deux mois. Et parfois, certaines missions sont donc renouvelées d'année en année. Donc, on y consacre deux mois par an sur 10 ans. C'est des choses qui sont envisageables en fonction de l'intérêt de la fouille. Et après, l'équipe que l'on constitue, c'est en fonction également des besoins. C'est-à-dire que plus l'épave va être, ou plus le site va être profond, et moins on peut y rester de temps en termes de plongée. Donc à ce moment-là, il faut multiplier les plongeurs pour avoir un temps de travail au fond suffisant. En sachant que sur une épave qui est à 18 mètres de profondeur, on va rester en gros 50 minutes de plongée. Donc si on a la chance d'avoir les étals de mer, donc là je parle plus pour la Bretagne où on a une courantologie et où on a des marées importantes, on va plonger aux deux étals de mer. Donc si on a la chance d'avoir les étals qui sont liés aux heures d'ensoleillement, eh bien on va plonger sur les deux. Mais si on a une étale qui est à minuit, eh bien cette plongée-là va sauter. Ce qui fait qu'on va plonger qu'une seule fois par jour sur le site. Donc pour avoir un travail effectif, eh bien on va multiplier le plus possible. Donc à savoir, nous dans notre configuration, en gros 18 plongeurs au maximum, quoi, voilà.
Existe-t-il des pillages sur les côtes bretonnes ?
Oui, ben, effectivement, le pillage, bon, je ne vais pas dire que c'est particulier à la côte bretonne, mais ça existe évidemment aussi sur les côtes bretonnes, c'est-à-dire que c'est encore difficile dans le mental de, ben, des gens de la côte de se dire que ces objets-là ne leur appartiennent pas, alors qu'en fait, ils sont sur leur côte et que c'est leur histoire, et que du coup, il y a une appartenance de ces objets. Ça, c'est difficile. Donc, effectivement, oui, du pillage, ça existe toujours et c'est même très développé. Une fois que ces objets ont été pris en main par l'État français, c'est pas toujours évident de le restituer aux populations locales, parce qu'il faut avoir des lieux d'accueil privilégiés pour ces objets, qui sont donc particuliers. Hein. Si on remonte pour les épaves récentes, un hublot ou quelque chose comme ça, s'il n'est pas traité comme il faut, eh bien, tout simplement, il va disparaître en poussière. C'est pareil pour les objets organiques. Ce qui fait que si on veut transmettre ces objets de génération en génération, eh bien, il faut leur apporter un soin particulier. Et ça, le plongeur lambda, je vais dire, ne va pas pouvoir le faire parce qu'il n'en a pas la connaissance et parce que souvent, c'est des traitements qui sont coûteux. Ce qui fait que bon, c'est un problème, le pillage, il faut le dire, mais le discours est difficile à faire passer auprès des gens, de dire, ben voilà, ces objets ne sont pas à vous, ils sont à l'État et vous ne pouvez pas les avoir chez vous ni les transmettre de génération en génération aux petits-enfants. Voilà, c'est y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là par rapport à la population locale. Je pense qu'il y a une nécessité déjà que les objets puissent revenir dans les communes, que ça soit visible par la famille, mais il y a aussi un travail des plongeurs à dire, ben voilà, pour le respect des générations à venir également, de dire, voilà, j'ai trouvé telle chose à tel endroit, et si vous voulez, je peux vous emmener sur la zone pour qu'on puisse y travailler ensemble.
Donc si par exemple on est intéressé par l'archéologie sous-marine, peut-on participer à ces fouilles ou existe-t-il des formations sur ce sujet ?
Alors à l'heure actuelle, pour participer à des fouilles, il faut impérativement être plongeur classé, donc scaphandrier professionnel. C'est ça le hic de la chose. Donc pour essayer de remédier à cette difficulté, eh bien, la Dramar a pour projet de mettre en place avec le Cap Trébeurden, qui est donc un club de plongée qui forme également à la plongée professionnelle à Trébeurden, donc de mettre en place une école d'archéologie sous-marine et probablement en collaboration avec une université, à savoir Rennes ou Nantes, de manière relativement rapide.
Word, word to my funky style. Not the funky man, y'all fucking with the funky child. Paying homage to them brothers from the low tug. If you ain't noticed, we some niggas that don't give a fuck. They take to spend 100,000 on a fucking rug. They tell your girl to sing a song for some fucking thugs. You ever wonder why my niggas ever so fly? We lifting shots, popping pills, and blowing hella lie. A Maryland soldier, the DMV's colder. Hit this haze days and get put in a coma. Influential ways to have you do what I wanna. And no, I don't chase, just sweet marijuana. Love the way it smells, roll up, Harlem Renaissance. Love the way it tastes, smoke up, Harlem Renaissance. So I fly by to a level. Tell them bitches like it is no vibe every nuffle. Dot your eyes and use the T as a shuffle. Blowing loud Doja out the back of a bubble. Niggas say they blaze but they ain't never high. Blunts, joints and bongs just to get a spot. It's penalized but realize. Get it legalized, more niggas to sympathize. Cause we love the way it smell, love the way it tastes. Roll up, smoke up, then I dwell. Get up out of space.
Come back down to hell, these wings they lost their place.
Niggas,
worry about yourself and get up on my face.
You can smell the endo from over here. Liven up the party, stirring up some racketeer. We came to bring the heat to this jazzy beat. Harlem Renaissance, Kellington flow, mix with Holiday Billy. Gene be the name, aka Lift Through PH with your dame. I'm so high, y'all know lie like Drake and 2 Chainz. Cause when I fly, it's red eye, these planes crash your brain. But I'm focused to the fullest, feeling kinda ruthless. You hitting all them hard drugs, or you're feeling kinda smiling and toothless. Roll a new bit, calm yourself down. No need for agitation, cause we got the Drake pound. Love the way it smell, love the way it tastes. Roll up, smoke up, then I dwell, get up out of space. But if we go to hell, who gon' take our place? You can never change those wings, so might as well change your ways. Love the way it smells, roll up, Harlem Renaissance. Love the way it tastes, smoke up, Harlem Renaissance.
C'était Harlem Renaissance de Malik Jayz. En compagnie d'Anne Ouyoberry, entrons maintenant à bord de l'Hermine Bretagne, siège de leur pérégrination subaquatique.
Alors, ce bateau est un ancien navire ostréicole, donc c'est un bateau en bois, hein, qui est capable de porter 12 tonnes de coquilles sur le pont à l'échouage. Donc, c'est un bateau très robuste. Il fait 16 mètres, 17 mètres de long et 6 mètres de large approximativement. Voilà, donc il a été réhabilité pour l'archéologie sous-marine, c'est-à-dire qu'on a installé à bord une partie habitable qui peut accueillir des bureaux, un carré, et on a conservé sa timonerie comme à l'identique quand il était navire ostréicole.
Pourquoi ce choix ?
Eh bien, le choix de ce navire, c'était d'abord sa large plateforme arrière, hein, c'est-à-dire qu'il offre une zone de travail très importante et c'est ce dont on avait besoin pour travailler dans de bonnes conditions en termes d'archéologie sous-marine. Et puis d'autre part, il est très stable, c'est-à-dire que quand il navigue, il reste relativement plat sur l'eau, même par mauvais temps et par mer formé, ce qui fait que nous, pour un contexte archéologique, eh bien c'est l'idéal. Voilà, les objets ne sont pas ballottés, on fait prendre moins de risques aux objets archéologiques. Et puis aussi, on a des conditions de plongée et de travail plus favorable.
Donc là, on se situe sur la plateforme arrière. Pouvez-vous nous la décrire et nous y montrer ce qui s'y trouve, en fait ?
Alors, la plateforme arrière du navire est vraiment une zone stratégique en termes d'archéologie sous-marine, puisque c'est l'endroit où les plongeurs vont se mettre à l'eau. Et c'est également l'endroit où ils vont remonter à bord du navire. C'est également l'endroit... comme il y a de l'espace où on va faire les premiers traitements de conservation pour les objets archéologiques, mais également l'étude, c'est-à-dire qu'on peut faire des dessins à l'échelle 1, on peut remplir des fiches d'inventaire sur cette partie du navire. Alors voilà, la plateforme arrière est aussi dotée d'une grue hydraulique qui nous permet de remonter à la surface des objets archéologiques pesants, tels que par exemple des canons ou une ancre, ou de plus faible tonnage, de plus faible poids également, comme des grosses caisses avec des lingots, des choses comme ça. Donc cette grue, elle a été rajoutée pour le bien de l'archéologie sous-marine, pour être plus actif. Au pied de la grue, on a également un cabestan qui va nous permettre d'avoir des manœuvres de mouillage plus aisées, mais qui peut aussi avoir un rôle à jouer dans la remontée d'objets pesants.
Donc ensuite, nous dirigeons derrière pour entrer dans la partie humide de la cabine, je peux dire.
Oui, tout à fait. Donc dans cette partie, on a tout ce qui est mobilier, petit outillage qui va être utile à la plongée sous-marine. Donc des pinceaux, des brosses, des truelles, les bandes Velpo pour emmailloter les objets archéologiques que l'on va remonter à la surface. On a également un stock de sacs mini-grip ou sacs Raja, voilà, pour contenir les objets archéologiques, les tessons de céramique et petits objets de ce type. Et puis à droite du local humide, on va avoir le bureau. Donc dans le bureau, évidemment, on ne rentre pas en combinaison humide. On est là pour travailler sur les ordinateurs ou bien à l'enregistrement des données archéologiques suite à la plongée. C'est un lieu aussi stratégique lorsqu'on est en contexte de prospection géophysique. Donc dans ce cadre-là, eh bien, on a un ensemble d'ordinateurs et d'écrans qui assurent la liaison et surtout qui donnent la restitution des images de ce sonar, en fait, qui sont des images acoustiques et transmises sur l'ordinateur.
Donc là, nous nous situons à bâbord du bateau, devant des caissons, des coffres, et que contiennent ces coffres ?
Voilà, donc ces coffres contiennent des bouteilles de plongée et en même temps le système pour le gonflage des bouteilles en direct sur le bateau. Mais donc cette organisation se répartit sur tribord et bâbord, ce qui fait qu'en fait quand on est en contexte de fouilles archéologiques, on a l'équipe des bâbordais et l'équipe des tribordais.
Justement, combien de plongeurs peuvent être sur le bateau en même temps ?
Voilà, on peut accueillir 18 plongeurs à bord. Le bateau peut, en termes de sécurité, porter jusqu'à 20 personnes parce qu'en fait, il a une annexe qui est un pneumatique qui s'appelle le furet, qui contient aussi, en termes de sauvetage et de sécurité, l'accueil de passagers. Donc, 18 plongeurs, 20 personnes à bord. Après, eh bien, on a l'atelier. Voilà, qui est surtout l'atelier du chef mécanicien Georges Lepelletier, qui travaille à bord du bateau et qui fait tout l'entretien. Donc dans cet atelier, on va avoir tout le nécessaire pour la première réparation du bateau, mais aussi le petit matériel de fouille ou bien les motopompes, des choses comme ça. Voilà, avant le carré, on a les sanitaires et la douche, parce que c'est un bateau très confortable qui a été bien conçu. Donc la douche chaude est souvent assez intéressante. quand on plonge au large de Saint-Malo au mois de février, par exemple. Voilà. Et puis surtout, l'intérêt de ce mode de fonctionnement et de cet aménagement, c'est que le bateau peut être en autonomie et naviguer en autonomie. Et on peut travailler en autonomie facilement durant une semaine à 15 jours à 6 personnes. Maintenant, on va entrer dans le carré. Alors attention à la grosse planche qui est devant, en fait, qui est destiné à freiner les paquets de mer qui seraient susceptibles de rentrer à l'intérieur du carré. Donc il faut faire une grande enjambée pour ne pas se cogner le devant de la jambe. Voilà, donc là on est dans le carré. Donc en fait c'est une pièce quasiment carrée pour une partie, avec une table centrale elle aussi carrée qui permet d'accueillir avec un système de banquette environ 6 plongeurs. Alors le côté vraiment très plaisant de ce carré, c'est qu'en fait il a une ouverture sommitale qui nous permet d'avoir une lumière agréable et puis aussi de surveiller un peu la météo et avec l'accès à la vue des pavillons qui sont juste au-dessus. Voilà, et donc de ce carré, on passe à la timonerie. Alors pourquoi cette configuration? Tout simplement parce que quand le bateau est en transit, donc avec un climat ou une météo qui peut ne pas être clémente, eh bien l'équipage ne prend pas de risque pendant la navigation, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien aller manger, dormir et piloter sans sortir de la partie habitacle. Ce qui fait qu'ils sont préservés d'un coup de mer qui pourrait éventuellement les faire passer par-dessus bord. Donc la timonerie, le poste de pilotage, c'est l'endroit névralgique du bateau. C'est-à-dire que tout dépend de cette partie-là. Alors en fait, la timonerie, c'est une partie en hémisphère, on va dire, qui permet la visibilité sur au moins 180 degrés. Ce qui fait que c'est assez plaisant. Après, on a au niveau appareillage, donc sur la gauche, le GPS, le pilote automatique. Ensuite, on a un tableau de contrôle du moteur. Puis, à nouveau, une VHF sur les bateaux. La plupart des outils importants sont doublés en cas de panne pour éviter, pour avoir la plus grande sécurité possible. Ensuite, on a une barre qui est vraiment une barre, c'est-à-dire c'est une roue, comme on se l'imagine dans les clichés des bateaux, avec un beau devant cuivré. Donc cette barre, elle est utilisée principalement pour les manœuvres, c'est-à-dire manœuvres d'accostage. Mais sinon, en longue route, on va privilégier le pilote automatique, c'est-à-dire qu'on rentre un cap et puis le pilote suit le cap. Après, si on veut modifier son cap, on tourne simplement un petit bouton de quelques degrés et donc la route est modifiée. Après, on a un troisième mode de pilotage du bateau qui est un petit joystick façon PlayStation qui va donner un angle de barre qui est par notre pilote en fait assez rarement utilisé. Ensuite, on a la manette des gaz, donc avant, arrière, point mort, et puis un compas absolument pas électronique, qui va donc lui prendre le relais s'il y a une panne électrique à bord. Donc on peut toujours garder le cap avec ce compas. Sur la partie droite du tableau de bord, on va avoir des ordinateurs qui vont donner les cartes marines et surtout les logiciels qui permettent de la navigation. Après, dans la partie sommitale de la cabine, on a la balise AIS, qui est un petit boîtier avec un écran. Donc cette balise AIS, elle évite les routes de collision avec d'autres navires possédant eux aussi une balise AIS. Et puis on a le radar, lorsqu'il y a mauvais temps, brouillard ou bien de nuit, va nous signaler les dangers potentiel à proximité du bateau. Après, on a un instrument qui mesure la vitesse du vent et son angle. Et puis, à nouveau, un GPS et un sondeur donc, qui donne la profondeur, la hauteur d'eau qu'il y a sous le bateau.
Le Labomatic s'achève pour cette semaine. L'association Hadramar, quant à elle, continue d'écumer les mers à bord de l'Hermine Bretagne, à la découverte de notre patrimoine englouti. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur Hadramar et le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. Bonne journée à tous et à la prochaine.